Madame Blanche, cela se disait bien bas, n'était pas toute pureté comme l'image qu'on en a faite. Et il paraît que le comte Thibault, dont mon père était bien compain, l'a servi jusque dans son lit.
Il fallut le laisser parler. Le sénéchal, s'il oubliait les événements de la veille, gardait une mémoire précise des médisances qui couraient dans sa prime jeunesse. Il avait trouvé un auditoire et il en profitait. Ses mains, agitées d'un tremblement sénile, raclaient sans relâche la soie de sa robe sur ses genoux.
« Et même quand notre saint roi partit pour la croisade, où je fus avec lui ?»«
La reine résidait à Paris pendant ce temps, n'est-il pas vrai ?» coupa Charles de Valois.
« Certes, certes, » fit le sénéchal.
Ce fut Clémence qui la première lâcha prise.
« Eh bien, soit, mon oncle, » dit-elle, « je ferai votre volonté et rentrerai à la cité. »
« Ah, voilà enfin sage décision, qu'approuve sûrement messire de Joinville. »
« Certes, certes.
Je m'en vais prendre toute mesure. Votre escorte sera commandée par mon fils Philippe et notre cousin Robert d'Artois. »«
Grand merci, mon oncle. Grand merci, » dit Clémence. « Mais maintenant, je demande en grâce qu'on me laisse prier. »
Une heure plus tard, en exécution des ordres du comte de Valois, le château de Vincennes était en plein bouleversement. On sortait les chariots des remises, les fouets claquaient sur la croupe des gros chevaux du perche. Des serviteurs passaient en courant, les archers avaient abandonné leurs armes pour prêter la main aux hommes d'écurie. Alors que depuis le deuil, tout le monde s'était senti tenu de parler à voix basse, chacun maintenant se découvrait une occasion de crier. À l'intérieur du manoir, les tapissiers dépendaient les tentures à images, démontaient les meubles, transportaient les crédences, les dressoirs et les coffres. Les officiers de l'hôtel de la Reine et les dames de parage s'affairaient aussi à leurs propres bagages. On comptait sur un premier train de 24 voitures et sans doute faudrait-il 2 autres voyages pour en avoir fini. Clémence de Hongrie, dans sa longue robe blanche, errait de pièce en pièce, toujours escortée par Bouville. Partout la poussière, la sueur, l'agitation et cet aspect de pillage dont s'accompagnent les déménagements. L'argentier, inventaire en main, surveillait l'expédition de la vaisselle et des objets précieux qui, rassemblés, couvraient tout le dallage d'une salle. Plats de table, aiguières, et les 12 anapes de vermeil que Louis avait fait faire pour Clémence, et le grand reliquaire d'or contenant un fragment de la vraie croix. Ouvrage si lourd que l'homme chargé de le déplacer ahannait dessous, comme s'il montait au calvaire. Dans la chambre de la reine, la lingère Eudeline, qui avait été la première maîtresse du hutin, présidait à l'emballage des vêtements.
« À quoi bon ? À quoi bon emporter toutes ces robes, puisqu'elles ne me serviront plus de rien ?» dit Clémence.
Et les bijoux aussi, dont les écrins s'amassaient dans des coffres de fer, tous ces colliers, ces fermeaux, ces bagues, ces pierres rares, dont Louis l'avait comblé durant le bref temps de leurs noces, lui apparaissaient désormais comme des objets inutiles. Même les 3 couronnes chargées d'émeraudes, de rubis et de perles étaient trop hautes et trop ornées pour une veuve. Un simple cercle d'or, à courte fleur de lys, posé par-dessus le voile, serait le seul joyau auquel elle aurait droit maintenant.
« Je suis devenue une reine blanche, comme ma grand-mère Marie de Hongrie, et je dois me modeler sur elle. »
Mais ma grand-mère avait passé 60 ans et donné le jour à 13 enfants.
Mon époux ne verra même pas le sien.
« Madame, » demanda Eudeline, « dois-je venir avec vous au palais ? Nul ne m'a donné d'ordre. » Clémence regarda cette belle femme blonde qui, oubliant toute jalousie, lui avait été de si grand secours durant ces derniers mois, et surtout pendant l'agonie de Louis.
Il a eu un enfant d'elle, et cet enfant, il l'a éloigné, il l'a enfermé au cloître.
Elle se sentait comme héritière de toutes les fautes commises par son époux avant qu'il la connût. Elle disposerait de toute sa vie pour payer à Dieu, par les larmes, la prière et l'aumône, le lourd prix de l'âme de Louis.
« Non, » murmura-t-elle, « non, Eudeline, ne m'accompagne point. Il faut que quelqu'un qui l'ait aimé demeure ici. »
Et puis, écartant même Bouville, elle alla se réfugier dans la seule pièce calme, la seule qu'on eût respectée, la chambre où Louis était mort.
Il y faisait sombre derrière les rideaux tirés. Clémence vint s'agenouiller auprès du lit, posa les lèvres sur la couverture de brocart. Soudain, elle entendit un grattement d'ongles contre une étoffe. Elle ressentit une angoisse qui eût pu lui prouver qu'elle avait encore envie de vivre. Elle demeura un moment immobile, retenant son souffle. Derrière elle, le grattement continuait. Prudemment, elle tourna la tête. C'était le sénéchal de Joinville qui somnolait dans un siège à haut dossier en attendant le départ.